Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kavambi. Plusieurs familles vivent dehors à Kinshasa après la démolition de leur maison par l'hôtel de ville à Kintambo. Ces familles disent avoir aussi tout perdu et ne savent où aller. Vous suivrez aussi dans ce journal le message de paix depuis le territoire de Djougou en Ituri. Le chef des secteurs de Walendu, Djati, demande à la population du village Boudou qui avait fui les affrontements entre deux factions rivales de la Codeco de regagner son milieu. Appel lancé hier après une tournée de sensibilisation à la paix et à la cohabitation pacifique le week-end. Emmanuel Lampert est l'invité de ce journal. Le représentant pays de MSF en RDC demande plus de respect en faveur des travailleurs humanitaires et plus de protection des populations civiles dans les Kivu, où Médecins sans frontières reste proche des communautés malgré un contexte sécuritaire difficile. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile, à la gare de Kintambo, ici à Kinshasa, à la suite des travaux de démolition de leur maison par l'hôtel de ville. Ces familles disent avoir aussi tout perdu et ne savent où aller. Selon le gouvernement provincial, cette opération de démolition de constructions anarchiques vise à récupérer des espaces de l'État spoliés par des particuliers. Plantin Yambenga et Fatih Chenda signent ce reportage.
La gare de Kintambo présente une nouvelle image près de 48 heures après les travaux de démolition des maisons amorcés par l'hôtel des villes. Des débris des habitations mais aussi des biens jonchent les sols. Matelas, réfrigérateurs, réchauds, armoires, tout est perdu. Ces pères de famille, habitant les sites depuis plus de 20 ans, revient sur les scénarios qu'il a vécu les dimanches.
En arrivant vers chez moi là-bas, il y avait déjà un mur que l'ONATRA avait érigé, disant que c'est la fin de l'ONATRA. Mais le dimanche, subitement, ils sont venus, sans même nous avertir. Ils ont commencé à démolir par chez moi. J'ai tout perdu, même le véhicule est là. Je ne sais même pas le récupérer. À 19h, s'il vous plaît.
Cette jeune dame, âgée d'une vingtaine, trouvée sur les sites, essaye de récupérer quelques biens de la maison qui traînent encore sous les décombres.
Maintenant, là, nous sommes dehors. On passe la nuit à la Belle Étoile avec les Kuluna. Personne ne nous sécurise. On a volé presque tout.
Ces travaux ont aussi touché les activités commerciales de certains occupants qui disent détenir des documents de l'ONATRA.
Ils ont démoli ma maison. Les locataires me réclament leur garantie que je ne suis pas en mesure de verser. J'avais un restaurant, un lounge-bar. Je dispose d'un numéro des registres de commerce.
Sachez que ces travaux de démolition ont été lancés en vue de réhabiliter les chemins de fer reliant la gare centrale à Kintambo. C'est dans les soucis de rendre fluide la circulation dans ces coins de la capitale.
Toujours à Kinshasa, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa dit se réjouir de la décision du Conseil des ministres de revoir toutes les décisions prises qui n'ont jamais été appliquées. Dans une déclaration faite ce mardi, le président de cette association évoque plusieurs problèmes non résolus. Professeur David Loubo évoque par exemple le dossier des véhicules ainsi que la mécanisation des nouveaux docteurs. On l'écoute au micro d'Alain Irong.
C'est ici qu'il faut rappeler que dans beaucoup de cas, le gouvernement a toujours régimbé en sourdine. Les accords sont signés pour éviter parfois les ennuis avec le monde syndical. Vous pouvez imaginer que depuis 2022, que nous avons signé l'accord de Bibwa 1 et l'accord de Bibwa 2 en 2024, jusqu'ici, trop peu de résultats. Et le reste là, on ne sait même pas quand est-ce qu'on applique. Et parfois, on n'avait même pas de répondants. On écrit, on n'a pas de réponse, on parle, on n'est pas entendu, on demande des audiences, on n'est pas reçu, sauf pour les cas exceptionnels. C'est ici qu'il faut rappeler qu'il y avait le dossier véhicule qui consistait à couvrir le manque à gagner depuis 2017. Et pour ce dossier, le chef de l'État a instruit le gouvernement pour chercher un crédit. Et jusque-là, on ne sait pas, est-ce un entêtement, est-ce qu'un refus, un sabotage ou encore tout simplement une désobéissance à l'ordre donné par l'autorité suprême.
Et puis, une campagne d'appel au civisme et de chasse aux antivaleurs, principalement le phénomène Kuluna, est en cours depuis hier lundi à Kinshasa. C'est une initiative du gouvernement provincial à travers la Brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social. L'activité a commencé symboliquement avec la distribution des tracts au quartier 1 dans la commune de Ndjili. Pour Mimi Bikela, responsable de cette brigade, je cite, « Tout le monde doit se sentir concerné et s'impliquer pour le civisme. » Elle est explique ce qui est en train d'être fait à travers cette campagne dans ses propos sélectionnés par Babel Mpongo Masimango.
Cette brigade consiste à lutter contre les antivaleurs. Qu'est-ce qu'on entend par antivaleurs? C'est tout comportement d'incivisme que nous sommes en train de vivre en cette période. Les gens ont perdu de bonnes manières. Les gens n'ont plus de civisme et c'est ce qui est à la base de beaucoup de choses. Des coulounas, des embouteillages et de non-respect de lois. Alors, cette brigade, nous devons alors remettre les gens dans des lectures. Ça veut dire qu'on a des messages très importants à partager tels que rappeler aux gens que l'hygiène est nécessaire pour tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Des messages comme stop à la pollution sonore, des messages comme respecter le loi, parce qu'il y a plusieurs lois qui ne sont pas respectées. Le code de la route, nous avons la responsabilité de rappeler aux gens des notions qui existent déjà pour qu'à la prochaine, quand on va interpeller une personne, qu'il ne puisse pas dire que je n'étais pas au courant. Aujourd'hui, là, tout le monde a transformé son avenir en garage, en marché, alors que le marché pirate rend la ville sale. La propreté de la ville n'est pas le problème seul de l'autorité de la ville, c'est tout le monde.
Dans le territoire de Djougou en Ituri, le chef de secteur de Walendou, Djati, demande à la population du village Boudou, qui avait fui les affrontements entre deux factions rivales de la Codeco, de regagner son milieu. Appel lancé hier lundi après une tournée de sensibilisation à la paix et à la cohabitation pacifique le week-end dans les villages de Boudou et Lobou. Une activité menée conjointement avec son homologue du secteur de Walendou Piti. Justin Goudza, chef de secteur de Walendou, Djati, est joint par Sadiki Aboubakar.
Que les attaques puissent cesser, la population à déplacement puisse regagner leur milieu d'origine et que la circulation également soit effective entre les communautés, disons la cohabitation pacifique, et enfin les esprits de pardon doivent vraiment régner dans chaque communauté. Et nous sommes en train d'attirer l'attention de toute personne porteur d'armes, d'être animé de la culture de la paix, d'éviter tout comportement qui peut nuire, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Si nous disons l'extérieur, ça c'est le voisin aussi. En tout cas, à tous les niveaux, le calme doit régner. Il ne sert à rien de mettre mal à l'aise la population qui a tant souffert et qui a besoin vraiment d'accompagner leurs milieux respectifs sur le plan développement.
Rappelons que le 20 avril dernier, deux factions de la Codeco se sont affrontées dans le village de Boudou, faisant au moins 16 morts. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans tous les coins de la chefferie de Kaziba dans le territoire de Walungu ce mardi. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Les éléments de l'AFC M23 venus de Nyangezi via Moucheni depuis le week-end attaquent les positions des FRDC appuyées par les Wazalendo. Les activités sont paralysées et la population traumatisée. Selon nos sources, la situation est la même dans les territoires de Kabare et Kalehe. Les localités de Kabamba, Kacheke et les hauts plateaux de Kalehe sont secouées par des tirs d'armes lourdes et automatiques. La situation humanitaire demeure critique et les dégâts collatéraux sont énormes. Ronéline Tibonera.
Les écoles, les commerces et les travaux champêtres qui constituent les principales activités dans ces milieux ruraux sont complètement bloqués. Les habitants souffrent de faim dans leurs maisons où ils se cachent sous les lits et les autres dans la brousse. À partir de Kaziba, les rebelles progressent vers Minembwe dans le haut plateau de Fizi et les autres en direction de Luinja, siège de la principale société orifère Twangeza Mining. Deux bombes sont larguées partout sans tenir compte des milliers habités par la population. Les dégâts collatéraux sont énormes, témoignent nos sources sur place, même si elles ne sont pas encore en mesure de fournir les bilans. Dans la partie nord de la province, les territoires des Kalehe font aussi face à des poursuites des affrontements ces mardis. Les combats sont en cours depuis le matin à Bouchakou entre l'AFC M23 contre la coalition Wazalendo. Les rebelles ne cessent de se renforcer en troupes, en armes et en munitions. La population désespérée s'interroge à quand les retombées des pourparlers de paix engagés entre le gouvernement de la République et les belligérants.
Plus au sud du pays, dans la province du Tanganyika, le commandant des FRDC, forces terrestres dans le territoire de Moba, a demandé hier lundi à ses hommes d'arrêter de tracasser la population. Il s'agit des militaires qui sont placés au niveau des différents postes de contrôle. Il a aussi demandé à la population de vivre en harmonie avec les militaires. Cette sortie du commandant des FRDC à Moba intervient après les multiples plaintes de la population sur la tracasserie militaire. Paulin Munanga pour les détails.
Le commandant des FARDC forces terrestres dans les territoires de Moba s'est rendu à ses postes de contrôle au village Kakera, Kasengamukosa et Mulala. Sur place, il a sensibilisé les militaires à ne pas demander de l'argent aux personnes qui passent sur les barrières érigées sur l'axe Moba-Pueto. S'adressant à la population, le colonel José Toumba précise que ces postes de contrôle sont placés pour sécuriser la population contre des miliciens et non pour la tracasser. Et il demande à la population de collaborer avec les militaires. Suite au cri de détresse que vous avez lancé au sujet de la tracasserie perpétrée par la DEMIAP et d'autres services, j'ai appelé leur commandant qui est sur place, je l'ai grondé et lui ai demandé de cesser avec cette pratique. Si ces militaires sont arrivés ici chez vous à Kasenga ou Kakera, c'est pour vous sécuriser. Si une personne quitte ici pour arriver à Liapenda par exemple, des bandits vont l'attaquer. C'est ainsi que le comité de sécurité a pris la décision de déployer ces militaires sur cette route. Rappelons qu'il y a quelques semaines, les habitants de Moba ont décrié la tracasserie militaire sur des postes de contrôle. Même les députés provinciaux élus de Moba ont demandé le remplacement de tous les militaires de ces territoires à cause de la tracasserie.
Retour à Kinshasa pour parler des travaux qui ont réuni une centaine de femmes rurales hier lundi dans le cadre de la sensibilisation sur leur rôle dans la société. Il a été aussi question d'identifier les moyens de renforcer la participation de ces femmes rurales au processus politique ainsi qu'aux initiatives de paix. Cette journée de sensibilisation a été organisée par la section genre de la MONUSCO en partenariat avec les agences fonds et programmes des Nations Unies. L'essentiel de cette activité avec Nancy Atamo et Fatih Tchenda.
Pour les organisateurs, cette activité permet de valoriser les contributions des femmes rurales dans la société, aussi de mettre à leur disposition des espaces favorables afin qu'elles soient en mesure de prendre part aux décisions. Martine Andy, coordonnatrice de cette activité, nous explique le sens.
Cette journée du mois a servi de cadre de partage d'expériences tout en mettant en évidence les défis et les opportunités pour favoriser une participation accrue de la femme congolaise.
Du côté des participantes, le message est clair. La volonté est là, mais les barrières sont encore nombreuses.
Vous savez, quand on est femme rurale, on pense qu'on n'a pas à dire. Puisqu'on est dans des milieux ruraux, on touche la terre. Il y a aussi le manque d'informations, l'analphabétisme, vous savez, ça freine aussi. Mais quand on est femme rurale, pour postuler, on brandit d'abord la langue française. À travers cette sensibilisation, on a montré que les femmes peuvent s'exprimer dans toutes nos quatre langues, par exemple nationales.
Les autorités locales assurent que des efforts sont déployés pour mieux intégrer les femmes rurales, notamment dans les zones de conflit ou post-conflit.
Le prix de l'essence repart à la hausse une nouvelle fois en l'espace de quelques semaines dans les villes de Beni et Butembo au Nord Kivu. Dans certaines stations-service, le litre se vend entre 4 000 et 5 000 francs congolais contre 3 900 francs congolais il y a quelques jours, ce qui entraîne aussi une hausse du tarif des courses en taxi-moto. Des vendeurs évoquent une rupture des stocks liée aux travaux de réhabilitation du pont Semouliki sur la route Beni-Kassindi, principal corridor d'importation pour la région. Lors d'une réunion tenue hier lundi entre le gouvernement provincial, la FEC et les importateurs, plusieurs mesures ont été décidées, dont le maintien du prix officiel du litre d'essence à 3 900 francs congolais. David Kamouha, conseiller spécial du gouverneur du Nord Kivu, en charge des finances, explique dans cet extrait choisi par Martial Papimoukeba.
Nous sommes mis totalement d'accord aujourd'hui et de manière participative que le prix va être maintenu à 3 900 francs par litre à la pompe. Il faut signaler ici que conformément à la structure de prix de Kinshasa, en réalité le prix devrait être à 4 200. Mais compte tenu de la situation sociale de notre province, les pétroliers ont pitié de la population et voilà pourquoi ils ont dit que le prix va être maintenu à 3 900. Cela signifie qu'il est strictement interdit à aller au-delà des 3 900 ou à descendre des 3 900. C'est strictement interdit de faire la vente à gros au niveau des stations pour éviter que les gros Kadhafi viennent mettre la rupture des produits dans les stations. Le service de l'économie est interpellé pour faire exécuter toutes ces mesures de telle sorte que celui qui va violer ces mesures soit sanctionné conformément à la loi. Je tiens ici à préciser que nous avons élargi la réunion aux pétroliers de Butembo par vidéoconférence. Donc les mesures que nous venons de prendre à Beni valent également pour la ville de Butembo.
Vendredi dernier, la MONUSCO a remis à l'Office des routes 12 conteneurs de matériel destiné à la réparation du pont Semouliki, menacé d'effondrement, un pont crucial pour les activités d'importation et d'exportation vers Beni et Butembo.
Actualité internationale.
Plus de 72 000 personnes sont décédées ou ont disparu le long des routes migratoires à travers le monde au cours de la dernière décennie. La plupart d'entre elles dans des pays touchés par des crises, des pays connaissant des bouleversements violents ou des catastrophes, notamment la Libye, l'Iran et la Birmanie. Déclaration des Nations Unies ce mardi dans un rapport.
L'invité.
Malgré le contexte sécuritaire difficile dans les Kivu, Médecins sans frontières MSF reste proche des communautés pour remplir sa mission médico-humanitaire. Propos du représentant pays de MSF en RDC, Emmanuel Lampert, exige plus de respect en faveur des travailleurs humanitaires et plus de protection des populations civiles. Il est l'invité de Radio Okapi dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Emmanuel Lampert, bonjour.
Bonjour.
Vos équipes sur terrain au Nord Kivu sont témoins, mais aussi victimes des exactions commises par des porteurs d'armes. Pouvez-vous nous parler de ces exactions quotidiennes dans cette province?
Ici, il y a lieu avant tout de rappeler que le vendredi 18, encore une fois, nous avons perdu un collègue à l'hôpital général de référence de Massissi, tué chez lui, à domicile, à son retour de travail. Ça fait, depuis le début de l'année, le troisième collègue que nous perdons ainsi. Qu'à cela s'ajoute aussi ce que nous avons vu au courant du mois d'avril à Walikale, où lors de la prise de Walikale et aussi après, l'hôpital a souffert des impacts de drones très proches. Également la base logistique et plusieurs véhicules qui assurent le transport des malades étaient touchés.
Sur terrain, vous assistez à différents types d'exactions. Il vous arrive de monitorer aussi ces différents cas?
Oui, bien évidemment, bien que c'est pas le rôle principal des Médecins sans frontières, mais témoin des conséquences du conflit armé, nous avons effectivement le devoir d'en témoigner. Non seulement il s'agit des structures médicales, mais aussi la sécurité de ceux qui, en l'occurrence, retournent vers les territoires. Je crois que leurs différents droits, et notamment le droit à l'accès aux soins, le droit à la vie tout court, le droit à la dignité humaine, doit être assuré.
Quelles sont aujourd'hui les actions de MSF en faveur des populations victimes des guerres au Nord Kivu?
Les Médecins sans frontières sont présents dans le Nord Kivu depuis plusieurs années. Quand on cite les projets de Walikale, on soutient l'hôpital général de référence, plusieurs centres de santé, également Massissi et Mouesso, les deux zones de santé dans le territoire de Massissi, cela fait plus de 15 ans. Ajoutons à cela notre présence auprès de certains services hospitaliers à Rutshuru, également à Kibirizi, Bambo. Voyez là un peu l'empreinte médico-opérationnelle qui est présente bien avant cet énième épisode et cette fois-ci sans précédent qui touche la population, les besoins les plus pressants de la population. Aujourd'hui, avec la non-opérationnalité du programme élargi de vaccination, malheureusement, la rougeole frappe, l'insécurité alimentaire donne des cas de malnutrition. Et bien évidemment, en proximité avec le lac et la ville de Goma, la même chose vaut aussi pour la ville de Bukavu.
Quel message avez-vous aux porteurs d'armes pour une bonne protection des populations civiles, mais également les travailleurs humanitaires?
Mais je crois qu'il va de soi que la protection de la population civile, le respect pour le corps médical et tout ce qui a trait au droit humanitaire international doit être assuré. Ce que les Médecins sans frontières viennent de témoigner, la perte d'un troisième collègue, c'est sans équivoque. Cela doit cesser. Ceci est intolérable. Et cela témoigne encore une fois, comme nous l'avons évoqué, que non seulement témoin des violences, de certains climats oppressants, mais surtout d'une violence qui nous touche dans la mission médico-humanitaire.
À part la sécurité, à quels autres défis vos équipes font face sur terrain au Nord Kivu?
Je crois aujourd'hui dans les Kivu, il y a toute la difficulté zone contrôlée, gouvernée par le gouvernement central, ou en tout cas ses représentants, zone contrôlée, gouvernée, ou en tout cas avec la mise en place d'une administration propre, tant à Goma, tant dans le sud Kivu et dans les territoires dites contrôlés. Cela, pour le moment, manque une clarté de part et d'autre. Ça ajoute des barrières à la mise en œuvre de la mission médico-humanitaire. Cela ajoute des barrières à garantir l'accès aux soins avec efficience. Je crois les cadres qui sont là et qui engagent notamment les Médecins Sans Frontières en République démocratique du Congo nous engagent. Et c'est ça le cadre dans lequel davantage nous souhaitons toujours rester à côté de la population et des bénéficiaires.
Monsieur Emmanuel Lampard, merci.
Merci à vous, madame.
C'est la fin de ce journal, la première grande édition de cet après-midi sur Radio Okapi. Je vous retrouve à 16h, heure de Kinshasa, pour un autre rendez-vous de l'actualité, le bulletin d'information. Restez branchés sur le Média de la Paix.